Nous sommes le mercredi 17 juillet. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre Devineau.
À 7h, le journal Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Elisabeth Borne hérite donc d'un nouveau ministère. C'est elle qui remplace François de Rugy à la transition écologique tout en gardant les transports. C'était un peu une institution. Les magasins Tati vont fermer, sauf le site historique du boulevard Barbès à Paris. Et puis la vidéo avait beaucoup choqué un automobiliste agressant un aveugle à un passage piéton. Il vient d'être condamné en justice.
8h15, l'interview politique. Je reçois Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales.
Europe 1. C'est donc une nomination express. À peine François de Rugy a-t-il démissionné qu'il est déjà remplacé à la transition écologique. Le nom d'Elisabeth Borne a été annoncé dans la nuit. Elle garde également le ministère des Transports mais n'aura pas le titre de ministre d'État comme son prédécesseur. Les raisons de ce choix, Aurélie Herbemont.
Elisabeth Borne, c'est la compétence, vante un conseiller de l'exécutif qui cite ses deux réformes phares, la loi mobilité et la réforme de la SNCF. Matignon loue son sens de la concertation. Au plus fort de la grève des cheminots, Édouard Philippe avait pourtant fini par recevoir lui-même les syndicats qui ne voulaient plus négocier avec la ministre. Elle va gagner tous ses arbitrages avec sa poigne de fer. C'est Margaret Thatcher, s'amuse un conseiller ministériel. L'avantage d'Elisabeth Borne pour Emmanuel Macron, c'est qu'elle connaît très bien ce ministère. Ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, ministre des Transports depuis 2 ans, elle travaille déjà avec les secrétaires d'État Brune Poirson et Emmanuel Wargon. On préserve ce qui fonctionne, confie un conseiller du Premier ministre. Ce choix évite en tout cas les délais pour recruter et contrôler un nouvel entrant. Au moins, c'est aller vite, se réjouit une députée, même si certains marcheurs sont un peu déçus que l'écologie ne soit plus incarnée par un ministre d'État.
Aurélie Herbemont. Hier, François de Rugy, qui était sous pression depuis plusieurs jours, a donc démissionné peu de temps après la publication de nouvelles informations de Mediapart. Il s'agissait cette fois de l'utilisation de ses indemnités de député pour payer ses cotisations à son parti Europe Écologie Les Verts. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, salue son action au gouvernement.
Je crois que c'est une décision d'abord personnelle de François de Rugy. Je veux aussi signaler qu'à ce stade, nous n'avons aucune indication que des règles aient été transgressées. Je pense que c'est important de le dire parce que, au fond, nous avons là un homme qui a été un bon ministre de la transition écologique et je veux saluer l'action qu'il a eue au service du gouvernement qui fait face à des soupçons et qui fait le choix en responsabilité de pouvoir se libérer de ses obligations gouvernementales pour pouvoir y répondre de manière sereine.
La porte-parole du gouvernement hier soir sur BFM, François de Rugy dénonce un lynchage médiatique et sur Twitter, il dit penser aux mots de François Mitterrand à l'égard de Pierre Bérégovoy qui s'était suicidé en 93. Le président avait alors parlé de son premier ministre livré aux chiens. François de Rugy qui a d'ailleurs déjà déposé plainte pour diffamation contre le site Mediapart.
Europe 1, il est 7h03.
Et même ceux qui n'ont jamais mis les pieds chez Tati connaissent le fameux sac en plastique à carreaux rose et blanc.
Oui, mais c'est la fin d'une époque. Le site historique du boulevard Barbès à Paris sera bientôt le seul Tati en France. 13 magasins en difficulté vont fermer. Tous les autres passeront sous l'enseigne de son actuel propriétaire Jiffy. 189 postes supprimés. Les autres salariés devraient être reclassés. Écoutez ces clients d'un magasin Tati déjà nostalgique.
Ça fait mal au cœur. Ça fait 30 ans que je suis en France. Chez Tati, c'était bien. Pour la maison, pour les vêtements. Aujourd'hui, on a acheté beaucoup de bonbons, beaucoup de vêtements pour les enfants. On rentre, on trouve tout. On n'a pas besoin d'aller dans un autre magasin.
Étant plus petite, c'est là où ma mère allait m'acheter mes vêtements, ainsi qu'à mon frère. Pour les familles, on va dire, qui n'ont pas vraiment les moyens, Tati, c'est quand même accessible.
Je connaissais même des amis, on se rencontrait à Tati. Aujourd'hui, heureusement, je travaille. Je peux m'acheter tous les habits que je veux. Donc, Tati, c'est de l'histoire ancienne pour moi. Mais si j'aurais été dans la même position que mes parents à cet âge-là, j'aurais vraiment aimé avoir Tati.
Voilà, des clients d'un magasin Tati qui va changer d'enseigne au micro européen d'Arnaud Rozac. Et puis hier se tenait la première réunion de négociation sur les 1900 suppressions de postes chez Conforama. 32 magasins doivent également fermer. Occasion pour les syndicats de dénoncer la légèreté et l'incompétence de la direction du groupe qui veut tout boucler d'ici novembre.
C'est passé, comme on dit, tout juste. Ursula von der Leyen a finalement été élue à la tête de la Commission européenne.
Oui, élection ric-rac en effet pour cette fidèle d'Angela Merkel. Elle a rassemblé la plus courte majorité de l'histoire. À Strasbourg, Isabelle.
Ursula von der Leyen a été élue avec 9 voix d'avance seulement dans une assemblée qui compte 751 élus. Malgré tout, la première femme à diriger la Commission européenne est satisfaite car elle a eu peu de temps pour se faire connaître des députés européens.
Dans la démocratie, la majorité, c'est la majorité. Et je suis extrêmement heureuse qu'après 2 semaines, pas encore 2 semaines, 13 jours, on a réussi de former une majorité pro-européenne.
Difficile de savoir précisément qui a voté pour la candidate allemande, car le vote était à bulletin secret, mais certains populistes l'ont soutenu publiquement, ce que dénonce Emmanuel Morel de la France Insoumise.
Score très étriqué, avec en plus, parce que c'est ça qui est incroyable, le renfort du mouvement 5 étoiles en Italie, du PiS en Pologne. C'est quand même une première étape très décevante pour elle. Vous verrez que quand il s'agira de choisir des commissaires, là aussi, les difficultés reviendront.
Ursula von der Leyen est plus mal élue que son prédécesseur, Jean-Claude Juncker, un reflet des nouvelles divisions politiques au Parlement européen et sans doute aussi une indication sur les difficultés qui l'attendent au cours de ses 50 mandats. Strasbourg, Isabelle Horry, Europe.
Et puis l'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur la ratification du CETA, le traité économique entre l'Union européenne et le Canada, loin d'ailleurs de faire l'unanimité, notamment du côté des agriculteurs et des écologistes.
Un traité mal aimé. On y revient à 7h45 avec l'économiste Christian Saint-Etienne.
Europe 1.
Il est 7h07 sur Europe 1. Vous écoutez la matinale info de Pierre de Villeneuve.
À la suite du journal d'Hélène Zélani, vous vous souvenez sans doute de cette vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux. On y voyait clairement un automobiliste agresser un aveugle.
Oui, c'était en juin dernier à Paris sur un passage piéton. Le conducteur avait refusé la priorité à cet homme accompagné de son frère. Il les avait agressés verbalement et physiquement. Eh bien, il a été condamné hier pour violence volontaire sur personne vulnérable. 2000 euros d'amende, des dommages et intérêts et les frais de justice, ainsi que 18 mois de suspension de permis. Thierry Jam, vice-président de la Fédération des aveugles de France et partie civile au procès.
C'est aussi une prise de conscience collective de l'administration française pour dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'écrire des textes et des arrêtés, il faut aussi les faire appliquer. Et vous en avez parlé, vous, la presse, cet hiver, vous avez parlé du refus d'une traversée piétonne. C'est 6 points concrètement, mais ces 6 points, combien de fois ils tombent ? C'est exceptionnel, alors que tous les jours, il y a des personnes qui veulent traverser à qui on refuse la possibilité de traverser. Je crois qu'il faut être très clair, une personne aveugle qui s'apprête à traverser avec son accompagnateur, sur qui l'automobiliste le refuse, lui roule sur les pieds, sort de sa voiture et veut lui taper dessus, il est très vulnérable. Donc il est impuissant. Nous, on ne peut pas anticiper les coups, on ne peut pas anticiper les chocs. Donc concrètement, il se sent démuni et on le renvoie réellement à son handicap visuel. T'es un aveugle, tu restes un aveugle.
À propos recueilli par Chloé Triomphe, ce sont désormais 64 départements qui sont classés en alerte sécheresse, information du site gouvernemental Propluvia. Tous sont soumis à des restrictions d'eau.
Si vous vous demandez que faire ce mercredi, bah pourquoi pas replonger dans les souvenirs, en allant voir le Roi Lion.
Oui, 25 ans après le grand classique Disney vu par plus de 10 millions de Français, il s'agit cette fois d'un remake en 3D avec images de synthèse. Mais pour les trentenaires bercés par ce film, c'est presque une hérésie. Hélène Terzian.
Ils avaient à peine 10 ans quand ils ont découvert Simba, Nala, Mufasa. Aujourd'hui, ils veulent crier « touche pas à mon dessin animé ».
C'est impossible, c'est interdit. Non, j'irai pas le voir, j'ai pas envie d'être déçu.
Ressortir le Roi Lion et tout ce que ça porte derrière, bah, toute la génération que la mienne a, voilà, c'est osé.
Une génération marquée par des scènes cultes, comme la première du film, quand le singe Rafiki présente les bras tendus, le lionceau Simba aux autres animaux.
On l'a tous fait, avec son enfant, avec tous les enfants qu'on trouve presque. Bien sûr, on le prend dans les bras, on le monte devant tout le monde, comme un nouveau-né, et même des amis qui ont pris leur chat ou leur chien dans les bras, comme si c'était Simba, pour faire la même chose.
C'est l'histoire de la vie, le ciné.
Des rires, des larmes aussi.
La mort de Mufasa. À chaque fois, je fais avance rapide. Mais c'est trop triste. Ça m'a blessé quand j'étais petit. J'ai pleuré, comme presque tous les enfants. C'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, en tant qu'adulte, je veux pas les revoir non plus.
Et à l'inverse, il y a cette scène de Simba que Nicolas regarde en boucle.
On le voit évoluer avec le temps, avec ses amis qui marchent. Timon et Pumba, et il devient son père. Il ressemble à son père. Bah, c'est Hakuna Matata. Hakuna Matata. On s'identifie. Puis c'est une histoire de famille.
Et comme pour Simba, la crinière de Nicolas s'est bien étoffée. Lui qui a toujours cherché en sa femme la Nala qui sommeillait en elle.
Hélène Terzian. Et puis voilà une musique qui va aussi réveiller beaucoup de souvenirs pour certains d'entre vous. Scatterlings of Africa. Johnny Clegg vient de mourir à 66 ans des suites d'un cancer. Le chanteur sud-africain fervent opposant à l'apartheid avait permis de rapprocher les cultures grâce à sa musique entre pop et rythme zoulou.
Merci beaucoup. Hélène Zelani, ça m'émeut d'entendre Jenny Clegg. Il y a quand même toute une partie de l'histoire récente qui ressurgit avec ces quelques notes de musique. Merci beaucoup Hélène, vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h.